Alors, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Joël. Est-ce que tu pourrais te présenter en deux mots, nous raconter un peu ton parcours professionnel et nous dire un peu où tu vis et dans quelle église tu vas?
Bien, je m'appelle toujours Joël, j'habite toujours au Chesnay. J'ai travaillé pendant 42 ans en entreprise, dans des domaines un peu différents. Mon métier principal était celui de financier, donc j'étais directeur financier dans différentes entreprises. Pour vous donner quelques exemples, j'ai commencé au Galeries Lafayette, j'étais ensuite dans l'industrie, après je suis rentré dans le groupe Suez et j'ai terminé par une vingtaine d'années dans un groupe d'assurance. Et dans dans ce parcours, à un moment donné, on m'a dit « Joël, ça ne te dirait pas de prendre la DRH ?» Ce qui était peut-être le résultat d'un témoignage d'ailleurs. On te sent bien là-dessus. Je manipulais des chiffres, j'étais banquier à l'intérieur du groupe d'assurance et on me demandait de m'occuper des hommes. Donc je me suis occupé des hommes. Et pendant 11 ans, ça s'est pas trop mal passé. Et au bout de 11 ans, on m'a dit « Joël, t'es un peu dépassé, on va te remplacer ». Et c'est là où je suis tombé dans Alpha, dont je vais vous parler tout à l'heure. Qu'est-ce que rajouter que on a, avec mon épouse, on a 4 enfants, on a 7 petits-enfants. Et que, comme je disais tout à l'heure, la vie est belle, même si elle est difficile. Enfin, c'est quelque chose... J'étais très touché par le témoignage de David. On est dans des mondes compliqués, mais le monde est compliqué d'une façon générale, pas uniquement le monde de l'entreprise. Jésus a dit, et je reprends un propos de Carlos Payan, Jésus a dit « Aimez-vous les uns, les autres. » Et le problème, c'est... Non, c'est les uns. Le problème, c'est nous. C'est la question, c'est la question de notre conversion. Quand David parlait de ce masque, en fait, de ce double être, c'est-à-dire je suis d'une façon à l'intérieur de l'entreprise et je suis autre ailleurs, je suis en déséquilibre. Et toute la question, c'est de réconcilier ces deux personnes. Je vais laisser... Très voir le soin de se présenter.
Je m'appelle Trevor Harris. Je suis pasteur dans les Hauts-de-Seine à la Garenne-Colombes. C'est pas loin de la Défense. C'est une commune qui touche la Défense. Je suis pasteur là depuis 8 ans. Alors moi, après la fac que j'ai faite en Écosse, j'ai commencé dans le monde de l'entreprise. J'étais analyste de crédit dans une banque américaine à Londres. Et c'était un travail que j'ai beaucoup aimé. C'était parfois un peu stressant, mais j'ai beaucoup aimé surtout les collègues. C'était un peu une grande entreprise, donc il y avait beaucoup de jeunes diplômés. Donc c'était un peu comme la fac, c'était un peu comme l'EGPU. On était tous ensemble et sortis ensemble. Donc c'était un moment très convivial de la vie. C'était aussi un peu le moment des startups internet, c'était il y a 15 ans, 16 ans à peu près. Donc, avec quelques collègues de la banque, on a commencé une entreprise ensemble. On a essayé de faire une levée de fonds, etc. Et puis, ça n'a pas tellement bien marché. Donc, on a finalement rejoint une autre startup à Londres. Et c'est comme ça que je suis venu en France, en fait. J'étais muté en France, d'abord en Allemagne et ensuite en France. Et puis, je réfléchissais au ministère de toute manière, aussi quelque chose qui était un peu sur mon écran de radar. Et l'église où j'étais à Londres m'avait pas mal formé, un peu comme au GPU. Moi, je n'étais pas très impliqué dans les GPU en Écosse, mais un peu. Mais donc, c'est vraiment l'église locale qui m'a formé pour la prédication, pour les études publiques. J'ai exercé ça un peu à côté de mon ministère, de mon travail plutôt séculier. En fait, fil en aiguille, en fait, finalement, une fois en France, j'étais dans l'église de la rue de Sèvres, dans le 7e, j'ai décidé quand même, j'aimais beaucoup le ministère et faire des études publiques, la prédication, même si j'aimais beaucoup aussi le monde de l'entreprise, le témoignage en entreprise. Juste l'entreprise, en fait. J'avais commencé une activité à mon compte aussi en France. Et puis, une fois que la boîte a fait faillite, je n'avais pas mentionné ça. Et donc, finalement, j'ai décidé de me former dans une fac anglicane et ensuite à Vaux-sur-Seine. J'habite dans le Val-d'Oise aussi.
D'accord, donc aujourd'hui, tu représentes la pause de midi. Est-ce que tu pourrais nous présenter en deux mots le concept de la pause de midi ?
Voilà, le concept que on a un peu piqué de pas mal de ministères à Londres. En gros, c'est une rencontre qui a lieu une fois par semaine, donc à midi 45 en fait, précis, qui a lieu dans le local de l'église de la Défense. Et en gros, ce qui se passe, c'est que donc il y a trois pasteurs qui animent ça. Donc moi-même, Paul Harrison de l'église de la rue de Sèvres, et aussi Norbert Clément de l'église de la Défense. Et puis on commence avec un temps de repas autour de tables. Donc on a des sandwichs de Marks & Spencer, et puis un dessert, et puis un boisson. Donc c'est un peu classique, le menu à 6 euros. Et on commence juste en discutant autour des tables. Et puis ça passe, on passe à 13h05 à peu près, un message biblique, donc une petite prédication de 20 minutes, suivie d'un temps de questions. Et le concept, c'est d'être un partenaire dans le témoignage des chrétiens qui travaillent à la Défense. C'est de fournir un lieu de témoignage où ils peuvent inviter leurs collègues, et les exposer à l'évangile. C'est forcément des collègues avec qui ils ont déjà eu un contact, peut-être une première conversation. Et puisqu'en région parisienne, c'est difficile d'inviter des collègues à l'église pour quelque chose, parce qu'on habite loin les uns des autres. Donc, mais à la Défense, il y a des milliers de personnes, donc ils peuvent juste le temps de midi, tiens, mais venez à la pause de midi. Et donc, parfois, donc, le message est à la fois destiné aux chrétiens qui sont déjà convertis, c'est un message d'édification, mais aussi tourné vers l'évangélisation un peu. Parfois, ce sont des séries. Donc cette année, on a fait par exemple deux séries, dont Habacuc et Jacques. Donc c'est plutôt la prédication textuelle, bien dans le texte, pour montrer vraiment ce que la Bible dit, donc pour que les gens, les uns et les autres, puissent juste voir, entendre ce que la Bible dit. Et parfois, on a des parcours plus ouvertement d'évangélisation, comme Horizon Dieu, où on a fait un parcours sur l'évangile de Marc pendant plusieurs semaines, où c'est peut-être plus facile pour les uns et les autres d'inviter des collègues. Mais c'est pour les deux, parce qu'on se rend compte que si c'est juste pour l'évangélisation, les chrétiens vont se désintéresser après un moment. Donc il faut que ça soit quelque chose de bien édifiant, qui fait du bien aux chrétiens, qu'ils invitent ou pas, c'est pas grave. Et si certains peuvent inviter des collègues, ensuite les uns et les autres discutent avec ces collègues-là, c'est pas. Et donc, on doit être partenaire. Les gens viennent, c'est les pasteurs qui font les messages, on leur sollicite pas, c'est vraiment juste un service en quelque sorte, pour permettre aux chrétiens de faire un pas de plus dans le témoignage envers les collègues.
Merci. Joël, est-ce que tu pourrais nous présenter en deux mots le concept d'Alpha Pro ?
Il connaît Alpha, là, les parcours Alpha. Waouh, bien. Vous avez reconnu, je pense, dans le propos de David, toute la pédagogie d'Alpha. David nous a parlé de la rencontre. L'objectif d'un parcours Alpha, c'est la rencontre avec le Christ. David nous a dit annoncer la parole. On peut très bien avoir, ou plutôt nous a dit, on peut très bien avoir une relation avec quelqu'un sans l'avoir jamais rencontré. Et c'est bien justement le problème. Et dans un parcours alpha, on va permettre, au travers de 12 soirées, avec une progression dans des enseignements, cette rencontre. Alors, les piliers sont les suivants. On a trois piliers. C'est comme les juristes. Nancy nous parlait du tabouret tout à l'heure. Le premier pilier, c'est la convivialité. Et on la retrouve dans la pause de midi avec le sandwich Marks & Spencer. En fait, c'est le fait d'avoir une relation, une qualité d'accueil. On a parlé de relations, David parlait de relations dans l'entreprise. Dans Alpha, la relation est centrale. Le deuxième pilier, c'est l'enseignement. Donc on va avoir un enseignement dans un parcours alpha classique en paroisse, en église. On a un enseignement qui dure entre 35 et 40 minutes. Dans Alpha Pro, puisqu'on va faire ça sur la pause du déjeuner, l'enseignement va avoir le même contenu, mais va être réduit à 15 minutes, puisque on fonctionne comme vous avec une heure de temps de fonctionnement. Et si j'ai un enseignement de 40 minutes, ça colle pas. Donc je sors mon smartphone, je le pose sur la table, je mets un petit haut-parleur et j'ai un enseignement de 15 minutes. Et ensuite, on va avoir un temps d'échange. Là, c'est là la différence. C'est ce que, en fait, si on avait un orateur, l'orateur partirait. Et ce qui est important, c'est ce que David a dit également, c'est le questionnement. Ce sont les questions que les gens vont se poser. Et donc, on va organiser cet échange en fait, autour des questions qu'ils se posent et réactions qu'ils ont par rapport à l'enseignement qu'ils ont reçu. Et on va les accompagner, terme que tu as également utilisé. D'ailleurs, dans les enseignements, on parle aussi du tableau d'Holman Hunt, La lumière du monde. Et donc, c'est ce temps de convivialité. Et souvent, j'aime citer la phrase de Jean Vanier qui dit « La bonne nouvelle, c'est pas « Jésus t'aime », la bonne nouvelle, c'est « Je t'aime ». Et cette relation, ce « je t'aime » va conduire à « Jésus t'aime ». Puisqu'en fait, c'est la façon dont j'accueille l'autre, la façon dont je lui laisse la place, la façon dont je vais le laisser s'exprimer et réagir, et parfois se scandaliser, se mettre en colère par rapport à l'Église, à tous les cas, la connaissance qu'il en a, la façon dont je vais l'accueillir, qui à un moment donné va l'interroger. Et lui va souhaiter savoir pourquoi je l'accueille de cette façon-là, alors que d'une façon générale, lorsqu'il exprime ses sentiments profonds, ses douleurs, on va essayer de le soigner, on va lui dire « mais attends, il faut que tu fasses ça », on va te donner la leçon. Et ce n'est pas ça qui va lui permettre de grandir, et ce n'est pas ça qui va lui permettre de rencontrer Dieu. Souvenons-nous que Dieu se manifeste dans une brise légère, et donc... on va lui permettre d'avoir cette prise légère. Et la pause du midi ressemble un peu à ça. La différence, c'est qu'on ne va pas avoir un sachant qui va répondre à des questions. On va organiser cet échange. Et donc Alpha Pro s'est effectivement développé d'abord à la Défense. Donc vous êtes à l'est, on est à l'ouest de la Défense, puisqu'on est à la maison d'église. Vous êtes à 6 euros, nous on est à 7 euros. j'ai oublié de préciser que j'étais catholique, mais Alpha est transversal, et en fait on retrouve Alpha dans l'ensemble des églises chrétiennes. Et donc c'est Alpha Pro, c'est simplement pouvoir réaliser en une heure ce qu'en paroisse on va faire en deux heures.
D'accord. Du coup, l'objectif premier d'Alpha Pro, c'est quoi ? Ça va être le compte, ça va être l'évangélisation auprès des non-chrétiens ? Ça va plus être à destination des chrétiens ? C'est quoi votre objectif premier, principal ?
L'objectif premier, c'est la rencontre avec le Christ. Donc, en fait, David posait la question tout à l'heure, qui a rencontré le Christ ? Et j'avais quelqu'un à côté de moi tout à l'heure qui me disait, oui, dans le monde catholique, il y en a quand même beaucoup qui n'ont pas rencontré le Christ. On a reçu les sacrements, on a été catéchisés, et en même temps, est-ce que la rencontre a eu lieu ? Je ne suis pas capable de dire, pour ma part, je peux dire, oui, cette rencontre a eu lieu, mais de quelqu'un, j'en sais rien. Et donc, les cibles vont être multiples, ça s'adresse absolument à tout le monde, à la fois aux chrétiens qui sont dans la communauté, et qui, à un moment donné, en faisant un parcours alpha, vont découvrir que cette rencontre n'avait pas eu lieu, et leur vie va être transformée. Ça s'adresse aussi, comme le dit le pape François, aux gens des périphéries, donc qui sont à la marge, qui ont croisé les chrétiens à un moment de leur vie, qui s'en sont éloignés. On va accueillir des musulmans aussi, on va accueillir des bouddhistes, on va accueillir des athées. Là, on vient d'accueillir dans le dernier parcours un Vietnamien qui s'est déclaré agnostique en arrivant et qui, à la fin, est parti. J'ai déjeuné avec lui la semaine dernière. Il m'a dit, tu sais, après le parcours Alpha Pro, je suis allé faire une retraite dans un monastère de 5 jours et je rentre en catéchuménat.
Trevor, est-ce que tu pourrais nous dire quel est votre lien avec les églises locales ? Comment est-ce que votre ministère va s'articuler par rapport à ce que peuvent faire des églises ?
Alors, le lien évident, c'est un partenariat de 3 églises, principalement 2 églises, la Graine et la Défense, mais avec l'appui de l'église de la Rue-de-Sèvres. Donc, c'est déjà ça, en fait, un lien. C'est clair. Et ensuite, pour les personnes qui viennent, on cherche surtout pas à être une église locale. Notre but, c'est d'être un partenaire des croyants qui travaillent à la Défense, pour qu'il puisse témoigner, vivre la foi, être encouragé dans la semaine. Et ensuite, on veut que les gens soient pleinement engagés dans leur église locale, en fait des chrétiens mûrs engagés en église. Et ceux qui viennent, qui connaissent pas le Seigneur ou qui viennent au Seigneur, donc notre but c'est pas de les garder à la défense, mais plutôt qui sont en contact avec une église locale. Donc voilà.
D'accord. Merci Joël. Même question, quelle est votre raison d'être par rapport à l'église locale, enfin, par rapport à la paroisse?
Alors, il faut savoir qu'on est dans une maison d'église, ça veut dire qu'il n'y a pas de paroisse. En fait, c'est un lieu de rencontre au niveau de la Défense qui est proposé à l'ensemble des chrétiens, puisqu'on va avoir, on a un groupe d'exégèse biblique, on a des groupes de louanges. En fait, c'est un lieu qui vit exclusivement le midi pendant les jours de semaine. C'est fermé le samedi et le dimanche. En fait, nous, c'est clairement de l'évangélisation, c'est clairement d'annoncer le Christ, et c'est d'avoir des gens qui, ensuite, vont se réinvestir dans leur propre communauté. Je fais souvent le parallèle, le vendredi matin, je vais servir le petit déjeuner aux sans-abri, j'ai l'impression qu'on est avec des sans-abri spirituels le midi. Et c'est pouvoir les désaltérer, chaque pause de midi a un peu la même fonction. J'entends souvent, c'est bon d'avoir une respiration d'une heure pendant la semaine de travail. En fait, la démarche, c'est ça. C'est de leur redonner une consistance et peut-être aussi de savoir réconcilier ces deux facettes de notre être. Les échanges tournent bien évidemment, puisque c'est ce que les invités ont en commun. Les échanges tournent autour de la difficulté à être chrétien dans l'entreprise. Donc, dès qu'on commence à échanger, on se libère d'une certaine façon. Le poids est moins lourd.
Merci. Trevor, en France, dans le milieu chrétien, le ministère étudiant est très bien développé. On a une centaine de groupes GBU en France, quasiment aucune. Il y a peu de villes qui n'ont pas de ministère étudiant. Par contre, dans l'entreprise, ça a l'air d'être un peu le parent pauvre. Moi, j'habite à Toulouse. Il y a une grosse usine d'Airbus avec plusieurs dizaines de milliers de personnes qui travaillent là tous les jours. Et à ma connaissance, il n'y a rien. Est-ce que tu as réfléchi à pourquoi est-ce que le ministère en entreprise est aussi peu développé? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, du coup?
Pourquoi est-ce que c'est... En fait, je ne sais pas exactement, mais j'imagine que on va d'abord au travail pour travailler. Donc, c'est pas évident de créer des associations en plus. On est là pour travailler. Donc, et dans un sens, de mon point de vue, moi, je pense que ce n'est pas forcément plus mal que ce soit comme ça. Parce que, je dirais, le projet de Jésus, c'est l'église locale. Il veut voir des églises locales implantées de par le monde, des églises locales vivantes qui annoncent le Christ, qui équipent leurs fidèles à vivre pour lui, témoigner pour lui, là où ils sont dans la semaine, donc que ce soit au foyer, au travail. Donc, quelque part, je ne sais pas si on a forcément besoin de créer énormément de ministères en plus. On a plutôt besoin d'équiper en église locale des croyants à être missionnaires là où ils vont dans la vie de tous les jours. Et puis souvent dans le travail, on n'a pas tellement le temps de créer des choses en plus, mais c'est plutôt dans le relationnel ensuite. Mais je pense en même temps, il y a comment dire, c'est utile, on le voit à la Défense où il y a une grande concentration de chrétiens, qu'il peut y avoir des ministères utiles. Peut-être à Toulouse, ça serait intéressant d'avoir quelque chose. Ça a une place limitée. Tout comme pour les GBU, je pense que c'est un moment dans la vie où on peut se former, on peut être entre étudiants. Mais après, c'est pour vivre d'abord l'église locale, mieux formée par les GBU, etc. Et ensuite dans la vie, je ne sais pas exactement, mais J'aurais envie de mettre l'église locale au cœur du projet et ensuite voir ces autres projets comme des partenaires quand c'est possible, mais pas forcément prioritaire non plus.
On va dire que c'est une proposition à te faire.
Oui.
À Toulouse, moi, j'ai pas de parcours Alpha Pro en ce moment. Il n'y a aucun problème. C'est pas une galéjade. J'ai en tête un parcours Alpha Pro qui a démarré au Plessis Robinson avec des gens de Renault. Des gens de Renault. Alors, Plessis Robinson, est un lieu où il y a quelque chose de particulier. Il y a un café chrétien qui existe. Et il y a une messe le vendredi midi pour les gens qui travaillent dans le quartier. Et ils se sont réunis et ils ont commencé à faire un Alpha Pro entre eux, à leur sauce. Bon, c'était un peu... et ensuite, je les avais rencontrés, ils m'ont demandé de revenir pour faire un bilan. Et à ce moment-là, je leur ai fait une formation Alpha. Et donc, ils viennent de lancer un véritable Alpha Pro avec des gens, des entreprises environnantes. J'ai un autre exemple, c'est une jeune vétérinaire dans une bourgade, enfin oui, un gros bourg de la Beauce, qui a monté un Alpha Pro dans son cabinet vétérinaire. Alors, le premier jour, la première réunion, elle l'a faite dans le cabinet. Le patron du cabinet a dit « si vous pouvez faire ça chez vous, ça serait quand même pas mal », et ce qui me semble quand même plus, plus judicieux. Mais ça peut démarrer n'importe où. La semaine prochaine, je suis à la base aérienne de Creil. L'aumônier a décidé de lancer un Alpha Pro pour les militaires de la base aérienne. Ils ont une heure et demie pour déjeuner. Il insère son Alpha Pro à l'intérieur. Sur le rôle, enfin, ce que disait Trevor, enfin, sur l'église locale est importante, mais il est aussi important que l'église soit présente là où les gens vivent. Et il y a un temps, on passe un temps au travail qui est très important. Le midi, on fait du sport. Il y a énormément de gens qui font du sport. Je crois que c'est pas mal aussi de faire un peu de sport spirituel et de s'interroger sur le sens de la vie. Et justement, à un endroit où l'entreprise est quand même un petit peu un désert, enfin sur le plan de la dimension spirituelle. Je crois que c'est véritablement un acte de charité que de proposer dans ces environnements de travail. On en a d'autres, on a Saint-Louis-d'Antin dans Paris, on a un certain nombre d'endroits où il y a 15 jours j'étais à Notre-Dame du Travail à côté de la gare Montparnasse, et il y a un projet de parcours Alpha Pro, il y a des gens de la SNCF qui travaillent là et qui sont en besoin. Mais ça peut être un parcours zaché sur la doctrine sociale de l'Église. Il y a d'autres propositions. Mais d'être présent proche des lieux de travail, ça me semble essentiel aujourd'hui.
Si dans un parcours alpha classique, on va avoir une dizaine de séances et à la fin, et après ça s'arrête. Pour Alpha Pro, est-ce que vous avez une stratégie de suivi, entre guillemets, à long terme des gens qui vont suivre le parcours ?
Je suis issu de l'entreprise, donc on a de la stratégie. Non, c'est pas ce que je veux dire. Enfin, c'est une vraie question, ce que tu poses là. C'est, puisque les gens, dans un parcours alpha classique, dans une paroisse, ont découvert un accueil, une qualité de relation, et se posent la question ensuite de l'insertion dans la paroisse. S'ils retrouvent la même chose, c'est extraordinaire, c'est gagné. S'ils ne retrouvent pas la même chose, là, on a un déséquilibre. Sur la défense, on n'a pas de paroisse. Et donc, ce que je fais, ce que je suis en train de faire là en ce moment, on fait le parcours Alpha Pro, on le démarre en novembre, on le termine en mars. Et ensuite, tous les 15 jours, on se retrouve sur ce que j'appelle un poste Alpha. Donc, on a un outil et... Quand on habite au Chênay, il faut aller voir. Sur la paroisse du Chênay, en fait, il y a quelque chose qui s'appelle les équipes tibériades. Et la structure est celle dont tu parlais sur la pause du midi, c'est-à-dire qu'on a en fait un temps de convivialité, on a un temps d'enseignement avec des vidéos qui font entre 6 et 8 minutes sur des thèmes qui ont été choisis. Alors, c'est la paroisse catholique, mais sur les 35 thèmes aujourd'hui disponibles, il doit y en avoir une trentaine qui sont, j'allais dire, œcuméniques, en fait, qui peuvent être partagés. D'autres thèmes sont spécifiques à la foi catholique, donc ceux-là, on les évitera, et je les évite quand je fais mon post-alpha. Puisque quand sur la Défense aussi, on accueille à la fois des catholiques, une grande majorité de catholiques, ce qui correspond à la structure démographique, mais aussi des évangéliques, enfin bon, on a différentes confessions chrétiennes. Et donc je trie les thèmes et je continue. Et ce que l'on fait chaque année quand on fait le temps du post-alpha, c'est-à-dire d'avril à juillet, je réinvite les invités des années antérieures. Et donc on se retrouve de parcours différents et on continue à se nourrir.
Merci. Trevor, est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment vous communiquez, comment est-ce que vous vous faites connaître dans le monde de l'entreprise?
Mal. c'est pas évident. On fait la pause de midi depuis peut-être 7-8 ans, ou 7, peut-être 6-7 ans. Au début, on a envoyé des fiches, des flyers aux églises de la région parisienne pour leur dire « Est-ce que vous avez des personnes qui travaillent sur la Défense ?» Il y a eu très peu de retours. Mais petit à petit, finalement, je pense que le groupe qui est là, qui est assez stable, c'est plutôt les gens qui sont passés devant le local de l'église, ou qui ont entendu par bouche à oreille qu'il y a quelque chose, ou il y en a pas mal qui tombent sur le site web aussi. Et ensuite, à partir de ce groupe, en fait, c'est plutôt les chrétiens engagés qui viennent, et donc on a pas mal prié au fil des années pour qu'il y ait un groupe stable qui voit ce ministère comme un partenaire pour leur témoignage. Et donc c'est plutôt ces personnes-là qui invitent leurs collègues. Donc c'est plutôt la bouche à oreille, c'est un peu l'Internet, mais finalement on n'a pas des locaux énormes, donc on a un groupe qui est suffisamment grand pour qu'ils invitent maintenant des collègues. Donc faudrait peut-être à l'avenir qu'on cherche un autre local ou qu'on fait une autre rencontre, un autre moment dans la semaine. Mais c'est plutôt par la bouche à l'oreille.
Joël, est-ce que tu aurais un mot final d'encouragement pour ceux qui sont présents ici et qui se lèveront tôt lundi matin, peut-être un verset biblique?
Je les ai repris, je les ai entendus. Il y a un mois, c'était le père Pierre-Hervé Grosjean qui ont posé la même question. Il présentait son ouvrage, son dernier ouvrage, Catholique, qu'engagez-vous, mais il aurait très bien pu l'appeler Chrétien, engagez-vous. Le premier, c'est on vous attend. On a besoin de vous. Si le Seigneur vous a mis là, c'est là que se trouve votre mission. David en a donné un exemple tout à l'heure, je pourrais en donner d'autres. Vous avez des situations, et à ce moment-là, on compte sur vous. Je pense par exemple, un 15 août, je rentre de la messe, j'arrive à la maison, le téléphone sonne, je décroche, et j'ai la femme d'un collaborateur qui me dit « Joël, Damien, c'était leur fils, 14 ans, est décédé dans un accident de voiture hier soir. T'es chrétien, dis-moi ce qu'il y a après. On vous attend. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde, et le monde a besoin de vous. » Puis la deuxième réponse du père Grosjean était la suivante, c'est Catherine de Sienne. Quel le Christ, dans une apparition, lui a dit « Si tu deviens ce que tu es, tu mettras le feu au monde. » Vous avez le pouvoir, grâce à l'Esprit Saint, d'être vous-même. Accueillez-le, et je suis sûr que vous allez faire de très grandes choses.
Une question. Oui, j'avais plus ou moins la même chose, je pense. Dieu vous a mis là. C'est une vocation, c'est un ministère. Vous êtes des missionnaires là où Dieu vous envoie. Parfois, j'ai l'impression que dans l'Église, on a tendance à penser à la mission de l'église locale comme le quartier autour de l'église. Il faut qu'on soit une église pour notre quartier. Quand la plupart des gens qui viennent à l'église dans la semaine sont bien loin et ailleurs. Et donc, non, la mission de l'église, et vous êtes des missionnaires, c'est témoigner là où vous êtes. Demain, je prêche sur les Actes des Apôtres, le chapitre 11. Et puis, la deuxième partie, c'est l'établissement de l'église d'Antioche. Et on voit que c'est les chrétiens dispersés de Chypre et de Cyrène, donc c'est à peu près en Tunisie aujourd'hui, qui ont témoigné. Ils sont anonymes, on ne connaît pas leur nom. C'est eux qui ont témoigné aux non-juifs à Antioche. Ensuite, il y a Barnabas qui est venu, etc. Mais c'est le Seigneur se sert comme des femmes ordinaires. L'évangélisation de l'Europe a eu lieu grâce aux commerçants, pour la plupart, je pense, qui ont été envoyés dans le travail, qui ont parcouru les chemins, les autoroutes, les chemins de fer de l'époque de l'Empire romain. Et c'est comme ça que l'Évangile a progressé. Dans le livre des Actes des Apôtres, on voit que la parole progresse malgré la persécution, malgré la faiblesse de l'Église. C'est parce que le Seigneur ressuscité, glorifié, agit par sa parole au moyen de l'Esprit. Et on a tous cette même parole. Et voilà, les chrétiens de Chypre et de Cyrène ont implanté l'église d'Antioche. Et on est tous dans ce même travail, donc aussi lundi matin.
Merci. Je vais inviter David à nous rejoindre. Et maintenant, la parole est à vous. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants par rapport à ce qu'ils ont dit ? On a eu un temps de questions avec Nicolas déjà ce matin. Donc, est-ce que... La parole est à vous.
Nicolas nous a dit qu'il y avait un pasteur qui est parti dans le monde des entreprises. Je me suis dit, mais il est complètement fou, comment ça se fait? Et j'avais envie de rencontrer ce pasteur. Parce que lorsqu'on voit les difficultés qu'on peut rencontrer dans le monde de l'entreprise, on n'a qu'un verset qui nous vient à l'esprit, c'est « Sortez du milieu de mon peuple ». Moi, j'ai que ça à l'esprit lorsque j'ai des difficultés dans l'entreprise, dans l'administration notamment. Et donc, après vous avoir écouté, je me dis, mais pourquoi pas? Parce que, effectivement, on peut être utile dans les entreprises. Deuxième réflexion, deuxième question. C'est bien de poser, de parler de Jésus avec ses collègues. C'est bien d'en parler longtemps, lorsqu'on a la possibilité. Mais est-ce que, justement, lorsqu'on le fait sur une durée trop longue, on n'est pas en train de voler du temps à notre employeur?
Une petite réaction par rapport à la première remarque. Je vais être rapide sur l'affaire, mais c'est un point important pour moi dans cette fameuse bascule que j'ai vécue entre le ministère pastoral et la vie de l'entreprise. Parce que finalement, quand je me suis retrouvé avec ce challenge, je me suis dit, c'est super, je vais quand même... J'ai passé ma vie... professionnel jusque-là à être un pasteur, pour reprendre ce que disait Trévor, c'est-à-dire édifier l'Église, la former, former les chrétiens, les accompagner pour qu'ils puissent être solides dans le monde. Je me suis dit, c'est super, je vais les rencontrer maintenant. Et ça a été une épreuve très douloureuse pour moi, de rencontre au bout de quelques mois, que je ne voyais pas les chrétiens. C'était une mauvaise vision de ma part, en fait. Je veux dire, c'est moi qui tournais pas rond. Je pensais que les chrétiens étaient visibles dans le monde, en termes de... Et parce que dans mon métier, je croise des centaines de milliers de personnes, enfin, des milliers de personnes plutôt dans l'année, en fond, au travers des missions que je fais. Et en quelques années, je n'en ai pas rencontré vraiment des chrétiens. Je veux dire, alors qu'est-ce que ça veut dire ça? J'attendais pas nécessairement à ce que, tout d'un coup, au milieu d'une assistance, c'est quelqu'un qui lève les mains en disant « Gloire à Dieu, Alléluia !» Non, c'est pas ça. Mais je me suis dit, on entend tellement dans les entreprises, surtout au niveau du management là où je travaille, de gens qui sont en souffrance, qui critiquent le système, qui critiquent le manque de moyens, qui critiquent leur N plus 1, leur N plus 2, leur N plus 3, leur N plus 100, que, au bout d'un moment, je me suis dit, mais où sont les chrétiens qui arrêtent de se plaindre, quoi? Est-ce qu'un chrétien, c'est pas quelqu'un qui devrait, et je crois que quelqu'un a dit ce matin, arrêter de se plaindre? Et ben ça, c'est pas évident. Je me suis dit, et du coup, c'était une grande épreuve pour moi, parce que je me suis dit, mais j'ai remis en question beaucoup de choses de ce que j'avais fait pendant 20 ans. J'ai dit, mais si c'est ça le résultat, je me suis trompé, quoi. J'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Si les chrétiens sont pas chrétiens du lundi matin au vendredi soir, dans la posture, dans la façon de voir l'autre, bah, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse dans les églises pour qu'ils soient vraiment présents? Donc, après, je me suis un petit peu réconcilié sur ces questions-là, en me disant, mais David, toi de jouer, quoi. Sois le premier chrétien à arrêter de te peindre, et puis à... Voilà, c'est juste pour illustrer, c'est que, voilà, et dernier mot là-dessus, l'Église n'est pas un monde sans violence. Hein. L'Église n'est pas un monde sans difficulté. Tout à l'heure, je parlais de la dualité dans les termes. L'apôtre Paul dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Il y a une rupture de la dualité là. Et la paix est quelque chose qui doit nous porter, nous être un but aussi quelque part en tant que chrétien, que ce soit dans l'Église, qui n'est pas toujours un lieu de paix, ou dans la famille, ou dans la société. Alors maintenant, je crois que les DRH sont peut-être plus sensibles à la question de la deuxième question, je ne sais pas comment tu répondrais, Joël.
Reformule.
Alors, lorsqu'on parle de Jésus avec nous, c'est une bonne chose, mais est-ce qu'on n'est pas en train de voler du temps
Oui, mais il y a différentes façons de parler de Jésus. David vient de le dire. Parler de Jésus, c'est simplement témoigner de quelque chose. Ou Nicolas l'a énoncé. Enfin, c'est sur le témoignage de l'action. C'est-à-dire que... et ça va me permettre de glisser aussi quelque chose d'important. À mes yeux, en tous les cas. C'est ma façon d'être, c'est ma façon d'agir qui va faire parler de Jésus. Je ne fais pas nécessairement annoncer. Ma façon d'être interpelle, et là j'ai un exemple en tête, tous les matins pendant une période, c'était juste après que j'étais déposé de la DRH, donc c'était une période qui était un peu délicate, les gens me regardaient avec commisération, ça va Joël, c'est pas trop dur, et très rapidement c'était pas dur du tout, enfin bon, et puis plus tard on a dit, oh, bah non, moi j'aimerais bien faire comme Joël, mais je passais le matin dans un service qui était à côté de ma direction et j'allais dire bonjour. Et le responsable du service, qui était un jeune, belle bagnole de sport, toujours avec les plus belles filles de l'entreprise, me dit « Joël, je peux vous poser une question ?» Je dis bah, « Oui, allez-y, qu'est-ce qu'il y a ?»« Vous avez un secret ?» Je dis bah, « Je sais pas, pourquoi ?»« Je sais pas, tous les matins, vous avez l'air heureux. » Je dis « Ah oui, j'ai un secret. » Et il me dit « Je peux vous le demander ?» Je dis bah, « Bien sûr, je prie tous les matins. » Et il me fait. Et on s'arrête là. Mais on s'est retrouvé à la machine à café. Et puis on a continué. Et c'était pas... probablement que je vais parler de Jésus par ce sourire, mais je prenais pas sur le temps de travail. Donc c'est pas nécessairement l'évangélisation dont on parlait tout à l'heure, enfin, ou qui est un peu, j'allais dire, agressive. C'est le fait qu'à un moment donné, on vienne vous voir en disant bah, « Attends, il y a quelque chose qui est particulier chez toi, quoi, qui est différent. » C'est être visible en tant que chrétien... sans nécessairement le proclamer en permanence, c'est ma façon d'être qui va le proclamer. La chose que je voulais ajouter, qui me semble très très importante, c'est, je disais tout à l'heure, nous sommes là, le Christ nous a mis là, et c'est là qu'est notre mission. Et il y a des moments où on se retrouve confronté à des situations et on se dit « ça, je ne peux pas le faire ». Alors il y a effectivement des choses qu'on ne peut pas faire, mais on est dans le cadre d'une mission professionnelle aussi. Et ce qu'il faut se dire, c'est que si vous ne faites pas, c'est un autre qui le fera. Et c'est un autre qui le fera et qui sera probablement loin de ce que c'est être chrétien. J'avais un exemple précis la semaine dernière dont on m'a parlé. Une femme responsable de moyens généraux dans une très grosse entreprise française. Et on lui demande, on exige de sa part qu'elle licencie 5 personnes dans son équipe. Contraction d'effectifs, économie. Et elle donne sa démission. Parce qu'elle ne peut pas faire ça en tant que chrétienne. Je pense sincèrement que c'est une erreur. Parce que la personne qui va le faire, elle va le faire à sa sauce. Et elle ne tiendra pas compte des vulnérabilités, elle ne tiendra pas compte des capacités des gens à se reclasser. Et une fois, un patron m'a dit « Joël, tu comprends, c'est super bien d'avoir des gens qui sont capables de faire ces choses sales que nous ne sommes pas capables de faire. » Et je lui dis « Je ne partage pas ton point de vue. Je pense que ce que tu qualifies de sale doit être fait par des gens propres. » Donc, il y a des fois où on est tenté « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il faut aller au bout. Et le faire, il faut accompagner les gens, il faut respecter les gens. J'ai licencié en tant que DRH un certain nombre de personnes. J'ai essayé de les accompagner à chaque fois. Et ce que j'avais en tête aussi, c'était de faire comprendre que c'était quelque chose qui était utile à la fois pour l'individu et pour la collectivité. Donc il y a des décisions difficiles, il ne faut pas s'y soustraire. Il ne faut pas les laisser aux autres, parce que le risque, c'est que là, ça devienne catastrophique.
Une autre question, oui ?
Pour me permettre une objection très légère.
Oui.
Licencier est une activité en soi qui n'est pas contraire à l'enseignement éducatif. Mmh. Tout à l'heure, David donnait un exemple, on lui demandait de mentir. Certes, si je ne le fais pas, quelqu'un certainement le fera peut-être à ma place. Mais il n'y a pas, je veux dire, sur certains points où on affronte carrément, où on est carrément confronté au commandement du Seigneur, il n'y aura pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire. Il n'y aura qu'une mauvaise façon. Et moi, je connais comme ça, j'ai eu un ami qui était architecte et qui a démissionné de l'entreprise où il travaillait parce qu'on lui demandait de faire des choses incorrectes. Par exemple, on lui demandait d'utiliser tel matériau sur le contrat et d'utiliser d'autres matériaux, par exemple.
Je souscris complètement. Je suis entièrement complice là-dessus. Il n'y a aucun problème.
Oui.
Moi, je voulais faire une remarque peut-être par rapport à ta question. Si des gens veulent en savoir plus sur le Christ, si tu considères que ça déborde le temps de travail, il suffit de leur donner rendez-vous en after work et puis d'en parler. Comme ça, tu respectes ton contrat, tu te respectes toi-même, tu permets qu'ils respectent aussi cet ordre. Bon, voilà, c'est un conseil pratique. Et puis, une autre chose que je voulais dire, c'est peut-être on a évoqué le terme de vocation. Je pense que quand... j'ai entendu aussi... gens qui trouvent le travail peut-être dur, le monde du travail dur. Je pense que c'est aussi intéressant de penser que Dieu nous a donné aussi des dons et qu'on les mette au service d'un ministère, comme on dit, dans l'église ou ailleurs. Ces dons, quand on les exerce et quand on est au service, ils nous procurent aussi de la joie. Donc c'est aussi d'intégrer cette joie dans le travail parce que Dieu nous a donné certains dons, certaines possibilités de création, de relations. Et je pense que ça peut aussi nous aider à porter un autre regard sur leur travail et sur notre présence dans le travail.
Moi, ce que je voulais rajouter, c'est que la difficulté, c'est que ces personnes ont souvent des réticences à aller dans une église, mais elles aiment bien discuter, parler de la foi, poser des questions. Donc forcément, on se laisse embarquer dans cette discussion, ce qui est intéressant en tant que chrétien, parce qu'on a envie de leur expliquer les choses. Donc souvent, ça déborde effectivement le temps de la pause classique. C'est bien, mais parfois, moi, j'avais ce dilemme-là. Est-ce que je continue? Est-ce que je prends toute l'après-midi pour leur parler de Jésus? Ou est-ce que j'interromps pour me consacrer à ma tâche?
C'est à ce
moment-là,
je pense qu'il
mieux se
consacrer à sa tâche. Et
Non, mais le DRH est clair, il faut bosser. Et puis ensuite, il faut l'inviter à un Alpha Pro, il n'y a aucun problème.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Une remarque pour compléter là-dessus, c'est que je me dis, à un moment donné, on n'est pas non plus. Enfin, ambassadeur parfait, et c'est bon aussi de se dire qu'il y a d'autres outils, d'autres aussi peuvent compléter ce qu'on apporte. Donc peut-être si vous aviez vous des outils ou des choses que vous utilisez, donc que ce soit un site avec peut-être des études bibliques accessibles, ou au-delà de l'église, de je t'invite à mon église, ou je t'invite à la cause des mini, peut-être des outils pour prolonger le témoignage, mais sans forcément s'engager cet après-midi.
Bon, le site s'appelle Amis d'Alpha. Vous arrivez sur une page et vous avez une icône Alpha Pro. Vous cliquez, vous avez la démarche et puis vous avez tous les exposés aussi en MP3.
Et puis vous allez mes coordonnées.
Je pense qu'il y a, certains sites web, c'est vrai, et aussi de la littérature, des tracts, des livres. Je pense qu'il suffit d'aller à la Maison de la Bible et leur demander peut-être qu'est-ce que vous... Et c'est pas mal de peut-être réfléchir par rapport aux collègues, quel genre de livre l'intéresserait. Est-ce que c'est plus un témoignage? Est-ce que c'est plus quelque chose d'académique? Et sans doute, oui, les ressources existent. Et puis peut-être faut juste demander aux amis chrétiens, aux pasteurs, qu'est-ce que vous donneriez à telle type de personne?
Oui, j'ai pas l'habitude personnellement, mais c'est un tort, de mobiliser des outils numériques, d'orienter sur un site ou sur un autre. Effectivement, ça c'est une bonne chose. Mais en parlant justement, ça me rappelle que un jour j'ai passé à ma collègue, toujours la même là, un livre. Que peut-être certains ont lu ici, s'appelle « Le développement naturel de l'Église » de Christian Schwartz. Alors vous allez me dire « Oula, t'as tapé où pour une personne athée ?» Mais en fait, ce qui m'a aidé, c'est que c'est la présentation, la façon dont le livre est présenté. Tu l'as lu ? Ceux qui l'ont lu savent que c'est très... c'est presque un mode consultant, quoi. Je veux dire, c'est très synthétique, il y a des bullet points partout. Et ça dit des choses très simplement et de façon entre guillemets crédible parce que ça part de la notion de la du développement de la croissance d'une plante quoi et ça on peut pas croire à la Bible mais tout le monde croit qu'une plante c'est une plante et qu'elle pousse avec un certain temps des étapes de croissance voilà et en vous le disant je me rends compte qu'elle ne m'a pas rendu mais je pense que quelque part il faudra que je revienne là-dessus mais c'est, l'idée c'est effectivement d'utiliser des livres après je pense qu'il y a, aussi j'ai vécu ça avec d'autres collègues de les inviter à une manifestation, une célébration qui est sur la région où je me suis dit tiens là ça peut être l'occasion d'un impact, en tout cas d'un temps de dialogue derrière, d'une interpellation donc il faut essayer de faire un peu flèche de tout bois mais le faire de façon authentique, c'est-à-dire que ce soit une intime conviction.
Une dernière question ? Oui ?
Enfin, c'est juste pour rebondir. Moi, personnellement, par exemple, ce que j'essaie de faire, c'est pas que avec des collègues, mais aussi avec des personnes qui sont intéressées par Jésus, finalement. Ce que je leur dis, c'est avant de dire oui ou non, finalement, à Jésus, il faut peut-être déjà voir la biographie de Jésus et savoir qui est Jésus. Donc, par exemple, il y a Jébu qui a fait les livres I Love LA, du grec. On a un outil qui est encore plus simple que n'importe quel groupe, et je pense que c'est la Bible. Lire la Bible avec nos amis, on a les sept signes de Jésus dans l'évangile de Jean. Donc chaque signe, chaque miracle nous apprend quelque chose sur Jésus. Et à la fin, on peut vraiment mettre la personne en face de ses choix. Si c'est plutôt une personne qui a déjà des bases en fait, chrétiennes, ça peut être la route romaine. Ce qu'on appelle la route romaine, c'est lire Romains 1 jusqu'à Romains 7, 8. Et voilà, on peut voir tout le parcours du salut, la justification, on était tous pécheurs, etc. Et il y a cette histoire d'espérance où c'est l'histoire dans Luc où Jean, on apprend encore plus sur la personne de Jésus. Voilà. Je crois vraiment que c'est à travers la parole, et notamment le Jébu en fait. Hein, le Jébu, c'est Oya, mais on peut l'adapter pour que ce soit pas forcément bon. Alors maintenant, avec mon collègue, c'est quoi l'observation, tac tac tac. Je pense qu'on peut vraiment l'adapter à notre sauce et aussi s'adapter à nos collègues selon quel est son niveau. Donc, juste pour vous encourager, si vous n'avez pas de groupe midi, etc., c'est pas très grave parce que vous avez la parole de Dieu et surtout vous avez le Saint-Esprit. En fait.
Merci. Merci, on va finir par un temps de prière. Donc, je vais inviter nos intervenants à prier pour nous. Et après, on passera un temps en petit groupe à 16h. Donc, je vous invite à prier.
Notre bon Père Céleste, merci pour le privilège d'être à toi. Merci de ce que tu nous as donné ta parole. Merci de ce qu'un beau jour, quelqu'un nous a parlé de ton Fils. Il nous a montré la grandeur de ton amour en lui. Et merci dans ta grâce souveraine de nous avoir ouvert les yeux. Et merci de ce qu'en Jésus couvert par sa justice, nous sommes
parfaitement accepté nous sommes tes enfants et merci pour cette joie que nous avons de t'appartenir. Et notre bon Père Céleste, nous voulons te demander de nous aider dans la vie de tous les jours à être témoin de cet amour que tu as, que tu nous as montré en Christ. Donne-nous de vraiment cette enracine-nous en Jésus. Donne-nous de la joie en lui, de la certitude de ton amour en lui, pour que nous puissions briller par notre comportement, par nos actes, mais surtout aussi en paroles, dans les petites paroles, comme dans les moments d'explication plus longues. Donne-nous d'avoir confiance en ta parole. Et tu vois, notre Père, que parfois c'est décourageant dans la semaine, c'est fatigant. Il y a de la concurrence, c'est parfois déprimant, mais donne-nous de fixer nos yeux sur Jésus, sur l'auteur de notre foi. Donne-nous de ne pas perdre cette perspective. Et notre bon Père Céleste, nous vont te demander de nous envoyer sur les chemins de la vie pour rencontrer ceux que qui sont à toi, tes enfants, ceux que tu choisis, pour que nous puissions témoigner. Utilise-nous, Seigneur, pour que nous puissions être des liens dans la constitution de ton peuple pour ta gloire. Et notre bon Père Céleste, nous demandons ces choses au nom de ton Fils précieux Jésus-Christ. Amen.
Amen. Seigneur, je veux te remercier pour cette journée, pour ces rencontres. Je te remercie pour la façon que tu as touché nos cœurs, la façon dont tu nous accompagnes au quotidien, la façon dont tu nous aides à trouver les mots, les regards, oui, pas nécessairement les mots, plutôt les regards, pour nous permettre de reconnaître en notre prochain ta présence. Tu sais combien nous avons du mal à accueillir cet autre. Et ta présence dans nos cœurs nous permet de l'accueillir. C'est toujours une grande émotion, cette rencontre, Seigneur. Pouvoir te reconnaître en l'autre, mettre en relation la façon dont tu nous habites avec celle dont tu habites celui qui est en face de nous. Merci Seigneur de nous confier cette mission de t'annoncer, cette mission de permettre tout cet amour quand tu nous inondes. Pour cette joie qui nous habite malgré les difficultés, cette joie de t'avoir pour Seigneur, de t'avoir avec nous, de pouvoir nous tourner vers toi. Envoie-nous ton Esprit Saint.
Merci Seigneur pour ta grâce et pour la grâce de la foi. Pardon Seigneur pour la faiblesse de ma foi. Et merci Seigneur de fortifier ma foi, notre foi, en Jésus.